avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il ne décolère pas depuis hier et la remise au Premier ministre du rapport Spinetta sur la SNCF. Philippe Martinez, leader de la CGT, annonce ce matin une manifestation nationale des cheminots le 22 mars prochain. Le 22 mars, jour de mobilisation également des fonctionnaires, la CGT entend défendre notamment le statut des cheminots, remis en cause selon eux par le rapport de l'ancien patron d'Air France. Il préconise de profondes réformes pour le ferroviaire, sa transformation en société anonyme, l'abandon du statut pour les nouveaux embauchés, alors que la SNCF, le transport ferroviaire, doit être ouvert à la concurrence au plus tard fin 2023. Examen aussi de la rentabilité des petites lignes. Il avait été saisi en urgence par une trentaine d'associations dont le Secours catholique, Médecins sans frontières et la Fondation Abbé Pierre. Le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur la circulaire controversée organisant le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Un recensement assimilé à un tri par les plaignants, Cécile de Kervas-Doué.
Oui, bien sûr que des familles de migrants se retrouvent en dernier recours dans les centres d'hébergement d'urgence. Où voulez-vous qu'ils aillent? Sur le trottoir? Clame par exemple la Fédération des acteurs de solidarité, qui regroupe près de 900 associations et qui, aux côtés d'Emmaüs, Médecins sans frontières, le Secours catholique ou la Fondation Abbé Pierre, demande la suspension de cette circulaire. Depuis début janvier, des équipes mobiles constituées d'agents de la préfecture et de l'Office français de l'immigration se rendent dans des centres d'hébergement d'urgence et dans des hôtels sociaux, avec pour mission de désengorger ces centres, qui sont totalement saturés, en réorientant les migrants. Mais ce que craignent les associations, c'est que ce contrôle pousse de nombreuses personnes à fuir les centres et refuser l'aide publique, quitte à reconstituer des campements de rue. D'ailleurs, toutes les préfectures ne s'y plient pas, car la mesure remet en cause l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire ce principe qui veut que toute personne dans le besoin soit abritée, quel que soit son statut. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a ainsi lui-même demandé le retrait de la circulaire. Sauf que le Conseil d'État a déjà auparavant estimé que les déboutés du droit d'asile n'avaient pas forcément à bénéficier de l'hébergement d'urgence. Les associations proposent donc aujourd'hui que la circulaire soit encadrée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de recueil d'informations personnelles sous la contrainte, mais sur la base du volontariat. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision la semaine prochaine, alors que le gouvernement présentera son projet de loi asile et immigration.
Il joue une fois de plus la carte du président des villes contre une droite des champs. Le parti Les Républicains se mobilise aujourd'hui contre les fermetures de classes dans les zones rurales. Selon les cadres et les parlementaires de l'opposition, le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire se fait au détriment des territoires ruraux et périphériques. Variable d'ajustement inacceptable pour la droite, en guerre donc contre le gouvernement. Oxfam dévoile ce matin son plan d'action pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles une semaine après des accusations de recours à des prostituées en Haïti après le séisme de 2010. L'ONG annonce la création d'une commission qui opérera à distance avec l'organisation et qui aura accès au registre d'Oxfam et à ses employés avec qui seront menés des entretiens afin d'identifier les abus éventuels. Oxfam annonce également tripler le financement des programmes de protection qui atteindront ainsi plus d'un million de dollars. Le 5 juillet dernier, le compositeur Pierre Henri disparaissait à l'âge de 89 ans. Sa maison parisienne, transformée en studio d'enregistrement, est aujourd'hui menacée de destruction. Une habitation où le père de la musique concrète avait créé son laboratoire de recherche électro-acousticien, accueillant aussi du public pour des concerts. Malgré l'intérêt patrimonial et artistique unique du lieu, situé dans le 12e arrondissement de Paris, aucune solution n'a été trouvée pour l'instant pour la sauver, Victor Tribolas-Pierre.
C'est au 32 rue de Toul, dans le quartier de Picpus, que Pierre-Henri a vécu pendant plus de 40 ans. Une vraie maison d'artiste recouverte de vignes vierges, dans laquelle il a composé la plupart de ses œuvres de musique concrète. Il y a bien sûr la pièce principale, son studio rempli de magnétophones à bandes et de consoles analogiques. Problème, le propriétaire de la maison l'a vendue à un promoteur immobilier qui compte la détruire pour construire à la place un immeuble moderne. Isabelle Varnier, la femme de Pierre-Henri.
C'est déjà un deuil considérable d'avoir à démonter cette maison qui est l'âme finalement de cet artiste. Si au moins on a la possibilité de travailler à transmettre son fonds de façon correcte, ça sera très précieux.
Sauf miracle, la maison sera détruite très prochainement. Isabelle Varnier et Bernadette Mangin, l'assistante musicale de Pierre-Henri depuis toujours, espèrent néanmoins pouvoir sauver le fonds accumulé par le compositeur en 70 ans de carrière, et notamment les quelques 10 000 bandes magnétiques contenant les enregistrements des sons dont se servait Pierre-Henri pour composer. Isabelle Varnier.
Tout ça est à classer, inventorié, et sera numérisé par la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de ce don.
L'équipe multiplie les contacts avec la ville de Paris, le conseil régional d'Île-de-France ainsi que le ministère de la Culture. Dans l'urgence, ils espèrent pouvoir trouver avant le mois de juillet un lieu pour 2 ou 3 ans, le temps de trier et d'inventorier tout le fonds. Un autre projet de reconstitution du studio de Pierre-Henri au sein du musée de la musique à Paris est en bonne voie. Une pétition a été lancée sur internet sur le site avaz.org et interpelle Françoise Nyssen et Anne Hidalgo. Elle a déjà été signée près de 8000 fois.
Le temps de ce vendredi 16 février, encore perturbé, couvert et pluvieux dès ce matin de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. Des nuages et de la grisaille de la Bretagne jusqu'aux frontières du Nord. Davantage de soleil près de la Méditerranée. Ce matin, comptez de moins 1 à 2 degrés au nord de la Loire, de 2 à 7 en général partout ailleurs, jusqu'à 10 même dans le sud-ouest. Cet après-midi, il fera entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 12 à 18 au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Mercier. Merci.